Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens. Bonjour à toutes et à tous, ici Jeanne pour votre émission Info Club Sandwich. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lucas Simoni du cinéma Orson Welles. Bonjour à toi.
Bonjour Jeanne, bonjour à toutes et à tous. Merci de me recevoir.
Avec plaisir. Comme beaucoup d'autres structures culturelles, le cinéma Orson Welles de la Maison de la Culture d'Amiens a réouvert ses portes récemment. On va faire donc un point sur la programmation à venir là, dans cette émission. Mais ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Alors du coup, je ne sais pas, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment ça s'est passé ces derniers mois pour vous, et la réouverture en ce moment, comment ça se passe?
Ah, mais c'est la folie. On est tellement contents de pouvoir accueillir du monde, d'être réouvert, de vous proposer des belles choses à voir. Oui, ces mois-ci, ils ont été très durs pour toutes et tous. Et autant la Maison de la Culture a été fermée. Après, ceci dit, nous sommes une grande structure qui avons beaucoup d'activités différentes. Donc, même si les cinémas étaient fermés, la salle était fermée, nous pouvions accueillir des groupes, par exemple, pendant un temps, des scolaires et ensuite des professionnels pour visiter nos spectacles, plutôt nos salles d'exposition, je veux dire. On avait une installation à Tropic Now, voilà. On ne s'est pas arrêté complètement, on a essayé de quand même garder la morale et la tête haute, mais j'avoue que c'était un peu dur. C'était un peu dur, mais après, là, ça c'est, on va dire, espérons que c'est derrière nous. Et depuis le 19, on a réouvert le cinéma. Malgré le beau temps, il s'est plutôt bien porté sur la première semaine, partout en France. Les gens y sont venus voir beaucoup de films. Et maintenant, oui, c'est vrai que la deuxième semaine, elle est un peu moins enthousiasmante au niveau fréquentation, mais je suis confiant pour la suite et je pense qu'on est tous contents de se retrouver.
Et au niveau de la programmation, comment est-ce que vous avez fait? J'ai vu qu'il y avait des films qui avaient été initialement, il me semble, prévus pour plus tôt dans l'année et qui ont été programmés maintenant. Je pense à L'Aventura, il me semble, de Michelangelo Antonioni, qui était déjà à l'affiche de cinéma Orson Welles avant. Vous avez fait un mix entre les nouvelles sorties et puis les anciens que vous vouliez passer?
Oui, tout à fait. En fait, souvent, la programmation, c'est une affaire d'accords et d'ententes avec les distributeurs. Donc, tout simplement, on a essayé d'honorer ces accords qu'on avait de diffusion de certains titres. Et notamment, si vous avez encore en mémoire la programmation d'octobre, on avait annoncé la sortie des Slaloms le 4 novembre. Donc, tout naturellement, on a repris cette sortie-là, même s'il y avait d'autres films qu'on aurait pu sortir. Mais puisqu'on était déjà en discussion, on avait déjà engagé cette programmation avec Jour des Fêtes qui distribue les Slaloms, le 19, on a sorti Slalom. Et puis, L'Aventura, c'était la même chose. Théâtre du Temple, qui est le distributeur, on avait eu un accord sur trois films, je crois, mais rappelle à l'époque, on avait fait une petite programmation autour de ces sorties patrimoine, et L'Aventura en fait ses parties. Et de même, Michelangelo, il nous manquait encore 5 séances à proposer, c'est-à-dire comme on s'était arrêté le 28 au soir, le 28 ou 29 octobre au soir, je ne sais plus, il restait 5 séances, donc à la reprise, là, en mai, on a repris les mêmes, voilà. Et je pense que le ciné sans lui, il a fait des mêmes avec Drunk, Joseph et tous les restes de sa programmation. Donc, après, j'avoue que là, c'est un peu... tout s'est bouscule, quoi. Il y a beaucoup de sorties, beaucoup de films qui sont restés dans les étagères. Je pense que les auditeurs et auditrices l'ont entendu beaucoup dire qu'il y a 450 films dans les étagères. Et c'est vrai, et c'est un peu la course. Il va y avoir certainement de la casse, malheureusement. Mais nous, on va essayer de faire de notre mieux pour que tous les films aient la meilleure visibilité possible.
Ça ne doit pas être évident pour faire des choix, du coup, quand il y a autant de films comme ça sur plusieurs mois qu'on pourrait sortir.
Non, c'est parfait, ça fait même mal au cœur parce qu'on peut avoir, un coup de cœur pour un film, c'est-à-dire et regretter aussi que la période soit pas la bonne période. Et puis aussi une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que L'été, enfin le mois de mai, juin, juillet, enfin cette fin, la fin d'année scolaire, toutes ces périodes n'est pas forcément la plus propice pour que les jeunes, enfin les gens, pour que nous tous nous allions en salle. Le beau temps, c'était souvent notre principal concurrent dans cette période, mais surtout aussi il y a quelque chose qui est dans le calendrier, qui est très important dans le calendrier de l'industrie, de la profession du cinéma, c'est le Festival de Cannes, par exemple, qui se tient souvent en mai, et donc qui prépare un peu les rentrées pour septembre, octobre, enfin pour la fin de l'année. Et là, le Festival de Cannes n'a pas encore eu lieu. Il aura lieu début juillet, pour exceptionnellement. Donc il y a tout, voilà, tout est un peu bousculé. Et il y a beaucoup des films qui encore attendent à sortir à Cannes. Donc je pense que je n'aime pas le mot subir, mais on va en tout cas ressentir les effets de toute cette quantité de films qui s'accumulent, cet embouteillage, comme on dit, jusqu'au moins la fin de l'année, ou même peut-être le premier trimestre 2022. Voilà.
En tout cas, vous avez réussi à nous faire une belle programmation là, pour cette ouverture. On a le film « Si le vent tombe » de Nora Martirosyan, qui est du coup programmé au cinéma Orson Welles. On est plongé ici un peu dans une petite république autoproclamée du Caucase, c'est ça ?
Les Haut-Karabakh, tout à fait, dont on a entendu parler dernièrement, oui. Et puis, voilà, « Si le vent tombe », c'est un très beau film... de Nora Maristoyan avec ses magnifiques Grégoire Collin qui interprète un jeune architecte plutôt fonctionnaire en fait qui doit donner comment on dit ça l'accord pour l'ouverture de l'aéroport de cette république. Donc le film il se passe par la plupart dans cet aéroport, enfin, en tout cas aux alentours de cet aéroport. On suit plusieurs personnages, en fait c'est pas un film choral, mais on suit comme ça la destinée, enfin en tout cas les tribulations de Grégoire Collin et les découvertes qu'il fait en fait dans le pays, et en même temps on découvre comme ça les personnages qui habitent le territoire. C'est une question d'espace, c'est un film très très subtil sur justement la question de qu'est-ce que c'est habiter un espace et qu'est-ce que ça détermine un territoire, l'identité d'un territoire et les êtres qui vivent dans ce territoire. Et cet aéroport devient une sorte de les filmer presque comme une cathédrale, on va dire, qui attend justement à recevoir le flou des passagers comme pour affirmer quelque chose, en fait. L'affirmation donc de l'identité du pays passe par justement l'idée de pouvoir recevoir des gens d'autres contrées. Et donc il y a quelque chose comme ça très très beau.
Il y a une dimension politique en fait derrière aussi, de reconnaissance de l'indépendance, enfin, du pays en tant qu'entité en fait, de cette république autoproclamée.
Absolument, c'est une question d'identité. Dans le film, il y a un moment où un des personnages dit que le Haut-Karabakh c'est un tout petit pays où tout le monde se connaît. Et c'est justement, on va dire, une communauté qui essaie de s'affirmer, d'affirmer leurs différences et aussi leur appartenance au monde. Et c'est cette question de l'accessibilité à l'aéroport. Et donc l'aéroport, justement, c'est un port vers l'extérieur, devient un peu le centre qui ferait qui serait identifié ces pays en tant que tel dans une carte, parce que même les frontières ils sont pas clairs en fait. Il y a toute une question de dessiner en fait qui est très intéressante dans que ces films abordent en fait. C'est comment un espace pour qu'il existe, il faut d'une certaine façon d'abord le dessiner, l'imaginer, voilà. Et le film il est très fort là-dessus.
Et donc, il sera diffusé demain, donc à 16h45, et dimanche à 19h, lundi 16h30, et mardi donc à 14h et à 18h30.
Tout à fait, c'est un film qui est proposé aussi, soutenu par l'ACID. L'ACID, c'est l'Association des cinémas indépendants. Voilà, et donc il y a des documents, des choses que vous pouvez... C'est un très beau film, il faut aller voir.
Cette semaine, toujours, on peut découvrir donc demain à 19h le film « The Last Hillbilly », donc de Diane Sarah Bousgarou et Thomas Jenkoé, d'ailleurs, qui sera là, puisque c'est une avant-première avec le réalisateur.
Tout à fait, avec l'un des réalisateurs, puisque c'est oui. Une co-réalisation. Et La Sibylle, c'est un documentaire très, très, très poignant sur une espèce d'illuminer, on va dire. C'est un personnage. Ils suivent, ils sont partis. Ça, c'est très rare d'ailleurs, parce que c'est deux Français qui vont filmer au fin fond des Appalaches les habitants d'une petite communauté qui s'appelle les Hillbillies. On appelle ça les Hillbillies d'une manière un peu
péjorative.
Tout à fait péjorative.
Qu'est-ce que c'est un Hillbilly?
Bah, c'est un buseux. C'est un buseux du fin fond de la campagne américaine. Mais justement, c'est là où c'est intéressant. C'est que le film déjoue justement cette image du qu'on peut se faire du manque de culture, par exemple, de la part de ces personnes. Et donne la parole à tous ces personnages, toutes ces familles qui ont des choses super intéressantes à dire, en fait, par rapport à leur rapport au monde, par rapport... Et on comprend mieux la façon dont ils sont les oubliés, en fait, du gouvernement américain, de tout, en fait. Il y a quelque chose... C'est vraiment les laisser pour compte, et finalement, c'est des personnes qui se sentent beaucoup plus appartenantes à un territoire, en tant que territoire, encore une fois, qu'à une idée des pays, on va dire, vous voyez. Enfin,
ils se sentent plus appalachiens qu'américains, c'est ça qui...
Tout à fait, exactement. C'est plus une attache à la terre par elle-même, quoi, à la nature. Et donc, du coup, ils ne sont pas du tout dans une question du capitalisme. Ils sont là-dedans d'une certaine façon parce que ça arrivait jusqu'à eux, mais ils ne vivent pas comme l'accomplissement, en fait, de leur existence. Donc, The Last Hillbilly, c'est un documentaire très fort là-dedans.
C'est une famille aussi, c'est très personnel aussi comme documentaire. J'ai l'impression qu'on suit pas mal chaque personnage de façon très, très approfondie.
Absolument, on reste un portrait de chaque membre de la famille, y compris la famille éloignée. Il y a les cousins, il y a les enfants de ces personnages qui sont une sorte de poète très... très grandiloquent. On est dans les beaux paysages de la des Appalaches avec ces lumières incroyables. On a les moments où les enfants y jouent aussi beaucoup dans la nature. On est vraiment en fait avec eux dans une intimité, dans une proximité assez touchante. C'est un film très sensible qui a été tourné comme ça par les deux réalisateurs presque en immersion auprès de ces petites je dis tout à l'heure communauté, mais c'est ça, c'est plus une famille en fait, parce qu'ils habitent un peu les uns à côté des autres à quelques dizaines de kilomètres, mais quand même ensemble. Et donc et Thomas Jenko, il sera là pour vous accueillir à 19h vendredi 4 juin. Venez nombreux, ça va être un échange très riche et intéressant.
Au programme, sinon, du cinéma Orson Welles la semaine prochaine, il y a le film L'oubli que nous serons de Fernando Trueba, qui nous plonge cette fois dans la Colombie des années 80, cette fois autre contexte. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça?
Oui, bien sûr. C'est une sortie nationale, donc c'est un film que nous avons en exclusivité, c'est-à-dire qu'il sort à Amiens au cinéma Orson Welles. Fernando Trueba, c'est un réalisateur colombien qui est plutôt repéré chez nous. Et puis là, dans le film, effectivement, c'est une reconstruction historique des années 80. Les années 80 en Colombie, qui étaient très... comme ça, dans l'imaginaire collectif, la Colombie et ces pays où il y a des questions politiques très compliquées par rapport justement aux armées des indépendantistes et aux questions sur le narcotrafic. Et dans L'oubli que nous serons, nous suivons une famille, notamment une famille plutôt classe moyenne haute, ils sont dans une volonté de ne pas céder aux injonctions du pouvoir, on va dire, et à toute la domination qui peut être exercée par la violence. Et donc, et toujours essayer de garder une sorte d'intégrité, on va dire. Et c'est un film très lumineux qui met beaucoup la patate, je trouve. C'est rare, en fait, d'aborder les choses avec autant de bonne humeur, on va dire. Ça m'a fait, enfin, c'est pas du tout, mais ça m'a fait un peu penser à la vie est belle de Bellini, enfin, la vita è bella, de Roberto Benigni qui abordait un sujet plutôt grave avec beaucoup d'humour et je dis pas de légèreté, mais il y avait quelque chose de philosophique, une distance philosophique, on va dire. Et là, dans le public que nous serons, il y a un peu ça. Et il y a cette médecin qui est un père engagé, qui va rester intègre jusqu'au bout, avec beaucoup de bonne humeur. Et c'est tiré des faits réels aussi. Donc pour les amants amateurs, amatrices, de la langue espagnole qui est tellement belle dans la bouche des Colombiens, c'est un plaisir. On retrouve les soleils des villes colombiennes.
Donc c'est L'oubli que nous serons de Fernando Trueba, qui sera donc programmé au cinéma Orson Welles toute la semaine prochaine à partir du mercredi.
Du mercredi, quasiment tous les jours. Ouais, tous les jours. C'est une sortie nationale, donc du coup il y a beaucoup de diffusions.
Sinon, la semaine prochaine, vous commencez aussi à diffuser les films du festival Télérama AFCAE. Donc, avec plusieurs films, il y a Les Indes Galantes, il y a aussi Un Triomphe et également First Cow, notamment.
Tout à fait, de Kelly Richard. Le festival Télérama, d'avant-première Télérama, c'est un festival qui est justement proposé par Télérama et l'AFCAE, qui est l'Association française de cinéma RIC, afin d'un peu relancer et mettre comme on disait au début, qu'il y a tout cet embouteillage et beaucoup de films qui sortent. Donc, on essaie de donner un coup de projecteur sur les films qui sortiront dans les mois à venir. Donc il y a une séance unique de tous ces films, c'est une petite dizaine de films. Vous pouvez retrouver les films qu'on vient de nommer et aussi le reste de la programmation au Ciné Saint-Leu. On se fait un peu comme ça pour que les amis puissent avoir accès à tout l'ensemble de la proposition de Télérama AFCAE. Et dans les deux cinémas, dans les deux salles. Et puis, vous allez découvrir des films comme First Cow de Kelly Richard, qui est une réalisatrice américaine dont vous avez certainement vu d'autres films très, très, très beaux, réalisatrice. Et puis, Un Triomphe, avec Kat Merad. Il y a un documentaire sur les spectacles Les Indes Galantes de Clément Cogiteur, qui était un très beau spectacle qui a été joué à l'Opéra de la Bastille en 2019, juste avant la pandémie. Et puis, Mila et 143 Rue du Dessert, qui c'est des films, le dernier un documentaire, et Mila, on suit les aventures d'une fille en Australie, d'une jeune héroïne qui se débat en Australie avec sa vie et des questions très, très, très cocasses.
Il y a un autre film qu'on n'a pas abordé, donc Michael Colas de Arnaud Despalières. Alors là, c'est un film historique, on nous plonge dans l'histoire au XVIe siècle, plus particulièrement.
Tout à fait, et en fait, cette programmation, c'est un accompagnement, une prolongation de notre exposition à découvrir, qui s'appelle L'âge d'or, une épopée politique. C'est une exposition que nous avons proposée en partenariat avec le Festival de la Bande dessinée, avec l'association On a marché sur la bulle, autour du travail de Cyril Pedrosa et Roxane Morey. Donc cette exposition dure jusqu'au 10 octobre et on essaie d'accompagner avec un cycle de films, toute une filmographie, toute cette exposition, dont Michael Colas, puisque c'est une figure qui rappelle, il y a une forte influence dans l'histoire de l'âge d'or, c'est-à-dire qu'il raconte l'avènement d'un nouveau ordre, en fait, à partir d'une révolte. Chose dont Michael Colas parle très bien. On propose aussi des films de Disney, puisque l'esthétique de Cyril Pedrosa, il rappelle ça aussi, en tout cas questionne plutôt ça, puisque le rappelait, le questionne, et surtout Cyril Pedrosa aussi a travaillé pour Disney pendant un temps. Donc ça nous semblait assez logique de mettre tous ces films ensemble. Vous pouvez découvrir toutes les semaines un film en rapport avec l'exposition d'ici jusqu'à la fin de celle-ci, qui est le 10 octobre.
Et un dernier film peut-être, Promising Young Woman, qu'on n'a pas abordé et qui est programmé donc à partir de la semaine prochaine également.
Tout à fait. Premier film Young Woman, qui est un film de Emerald Fennell, qui vous avez peut-être vu en tant que comédienne dans la superbe série The Crown. C'est la comédienne qui jouait Camille Bowles, l'amante du prince Charles. Et donc cette comédienne anglaise met en scène son premier long métrage qu'elle écrit et réalise avec Carey Mulligan, incroyable Carey Mulligan dans ses thrillers. J'ai vu partout que c'était... On avait montré ça comme un thriller féministe. Certes, ça l'est, mais ça l'est aussi d'autres choses. C'est un récit d'un être qui prend en main un peu sa vie et aussi décide d'agir. Et c'est très fort, c'est très beau, c'est très intelligent.
C'est difficile, j'ai l'impression, de dire le scénario sans spoiler non plus aussi l'histoire.
Absolument. Après, oui, bien sûr, mais il faut savoir simplement que vous allez rencontrer un personnage que vous n'allez pas oublier. Voilà, il y a quelque chose. Carey Mulligan, il transcende vraiment. Même si, j'ai dit, il transcende les scénarios, mais les scénarios, c'est quand même un très belle, très beau, très belle histoire, très beau scénario qui a d'ailleurs gagné l'Oscar du meilleur scénario la dernière cérémonie des Oscars en février. Voilà.
Bah merci beaucoup, Luca Simoni.
Merci à vous.
Vous pouvez retrouver donc toute la programmation du cinéma Orson Welles pour les semaines à venir sur le site de la Maison de la Culture d'Amiens. Je mettrai le lien en podcast de cette émission, évidemment. C'est la fin d'ailleurs de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve comme d'habitude demain à 12h et à 18h pour la dernière émission de la semaine. À demain.